Nicolas Tenzer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes spécialiste des questions géostratégiques, auteur de Notre guerre aux éditions de l'Observatoire. Alors, nous l'avons appris, Volodymyr Zelensky a pour la première fois depuis février 2022 évoqué la possibilité que la Russie participe à des pourparlers pour la paix. C'est pour l'instant assez flou, mais pour commencer, Nicolas Tenzer, comment accueillir cette nouvelle?
Alors, je pense que on peut l'accueillir de deux manières. D'abord, essayer de la comprendre. La première raison de la comprendre, c'est que Volodymyr Zelensky n'a jamais été opposé à la paix, que la guerre lui a été imposée par la Russie, que lui, évidemment, il souhaite que cette agression russe contre l'Ukraine et son peuple se termine. Et il veut montrer clairement qu'il y a un seul agresseur, qu'il n'y a pas deux parties belligérantes en quelque sorte, mais qu'il n'y a qu'un seul agresseur, et que, bien sûr, celui qui est agressé, ne peut que souhaiter la paix. Et c'est un message diplomatique qui est envoyé non seulement à ses soutiens, à ses alliés, mais également à un certain nombre de pays qui sont peut-être, disons, Sud notamment, pour essayer de montrer qu'il n'y a pas du tout d'opposition de sa part. La deuxième chose, je pense, c'est que il veut en quelque sorte forcer la Russie à dévoiler devant tout le monde ses propres intentions. Les intentions de la Russie, on les connaît, elles ont été exposées souvent par les Russes en disant, en gros, vous vous soumettez, vous nous laissez une série de régions que nous occupons maintenant en totalité et en partie, vous ne rejoignez pas l'OTAN, voire l'Union européenne, vous désarmez complètement, et dans ce cas-là, évidemment, nous, on accepte, ce qui voudrait dire concrètement plusieurs choses. Premièrement, que les exactions toujours occupés par la Russie, puisqu'on sait que dans ces territoires, les tortures, les exécutions sommaires, les déportations d'enfants sont le lot quasi quotidien. Et puis que, deuxièmement, ça voudrait dire que toutes les belles proclamations, je dirais, sur des alliés, sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, sur la punition des crimes, le paiement des réparations, le retour des enfants déportés, tout ceci n'existerait plus. On se connaît ces propositions-là, inacceptables évidemment par tout le monde, sur le plan à la fois du droit international des frontières et du droit international humanitaire. Mais voilà, si les autorités russes les exposent devant tout le monde, je pense que les choses seront claires. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le Kremlin a très mal pris cette proposition. En tout cas, il paraît pour le moins embarrassé, à en juger par les premières réactions, parce qu'il sent bien que c'est en quelque sorte un piège assez subtil dans lequel Zelensky veut les faire tomber. Donc ça, si vous voulez, c'est une première. Pardon.
C'était justement l'objet de ma prochaine question. Comment le Kremlin a accueilli cette nouvelle? Est-ce que Volodymyr Zelensky a pris les devants, si j'ose dire?
Oui, il a pris les devants. Il faut aussi rappeler qu'un certain nombre de participants à la conférence pour la paix en Suisse avait d'ailleurs demandé à ce que l'ensemble des parties soient représentées, concrètement la Russie, et d'une certaine manière, le président Zelensky dit chiche, voilà, ben écoutez, voilà, si vous le voulez, on va les inviter, puis on va très bien voir que, voilà, ce qu'ils ont en quelque sorte dans le ventre et dans l'esprit, ce que l'on sait, parce qu'un pays qui, comme la Russie, a tué déjà des centaines de milliers de personnes en Ukraine et avant, on le sait, en Tchétchénie, en Syrie, etc., n'est certainement pas un pays fiable, c'est le moins qu'on puisse dire.
On parle également du fait que ce ne soit pas un arrêt des hostilités, mais bien trois sujets qui sont majeurs pour Kiev, à savoir la sécurité énergétique de l'Ukraine, la libre circulation en mer Noire et les échanges de prisonniers. C'est également les informations que vous avez?
Alors, je pense que sur les échanges de prisonniers, on le voit, ils existent encore aujourd'hui d'ailleurs, ou hier, il y en a eu un. Ces échanges de prisonniers sont réguliers. Entre parenthèses, quand on voit les prisonniers russes revenir en Ukraine, ils sont très bien portés, très bien portants, pardon. En revanche, quand on voit les prisonniers ukrainiens, voilà, qui reviennent, Eux, ils sont dans des conditions déplorables. On a vraiment l'impression de voir des gens qui sortent d'Auschwitz ou de Mauthausen ou de Birkenau ou d'un camp de la mort nazie, tellement ils sont émaciés, ils ont été torturés. Enfin, c'est absolument épouvantable. Sur la question de la sécurité énergétique, le vrai sujet, c'est surtout celui des frappes russes, c'est-à-dire que est-ce que la Russie est prête à abandonner ses frappes contre les civils? On ne le voit pas pour l'instant, et puis ce serait en échange de quoi? En ce qui concerne la mer Noire, il faut voir que l'Ukraine a repris, grâce à son ingéniosité, une position de plus en plus forte en mer Noire, et qu'elle a réussi à débloquer ce que personne ne pensait possible, l'embargo notamment sur l'exportation de céréales et d'autres produits alimentaires, ce que personne n'envisageait. Et aujourd'hui, une partie de la flotte russe en mer Noire a disparu, et ça, c'est plutôt à l'avantage de l'Ukraine. Donc, en gros, si c'est pour discuter sur ces points-là, le premier, en quelque sorte, c'est déjà fait. Sur le deuxième et le troisième, on ne voit pas très bien ce qui pourrait résulter de cette conférence, à partir du moment où, de toute manière, ça ne met pas un terme à la guerre. Et peut-être une dernière réflexion, si vous me le permettez. Je reste un tout petit peu gêné par le mot paix. Même d'ailleurs dans l'utilisation qui a été faite, pour des raisons qu'on comprend, les Alliés le souhaitaient, de conférences pour la paix comme celle de Suisse. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce dont l'Ukraine a besoin et les démocraties ont besoin, c'est plutôt d'une conférence pour la guerre. Non pas qu'on souhaite la guerre, mais il s'agit de la gagner. Il s'agit que l'Ukraine la gagne, que nous la gagnions avec elle, bien sûr, ou d'une conférence pour la victoire. C'est plutôt cela dont on a besoin, plutôt qu'une conférence pour la paix, une fausse paix, dans laquelle l'Ukraine abandonnerait sa souveraineté, serait dans une situation beaucoup plus menaçante, et après l'Ukraine, ce serait nous-mêmes qui serions, je pense, menacés. Dans la mesure où, si la Russie parvient à conserver une partie de l'Ukraine, notre crédibilité sur le plan du respect du droit international serait bafouée. On rappelle toujours que hors temps de guerre, Seconde Guerre mondiale en l'occurrence, la révision des frontières par la force avec l'occupation et annexion illégale de la Crimée était la première révision des frontières en Europe depuis l'annexion des Sudètes par Hitler, donc c'est quand même un précédent fâcheux, si j'ose dire, et donc ça nous affaiblirait. Et je pense qu'il ne faut pas oublier tout cela. Il faut voir aussi qu'en Occident, soit aux États-Unis ou dans les pays européens, vous avez aussi un certain nombre de propagandistes dissimulés qui disent oui, tout doit se terminer par un accord, etc. Mais sauf que cet accord-là serait un accord qui nous mettrait encore plus en danger. Et qui, en fait, nous affaiblirait, je pense. Et je pense que c'est extrêmement dangereux de laisser, c'est pour ça que je suis un peu réticent sur le vocabulaire, de laisser un certain nombre de propagandistes, voilà, diffuser cette idée que tout doit se terminer à un moment par des compromis et des négociations.
Pour terminer, Nicolas Tenzer, revenons-en au terrain pur et dur. Où en est la situation? On a l'impression qu'elle a un peu été occultée dans les médias occidentaux depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas sur Israël. Que se passe-t-il pour l'instant sur le terrain?
Alors, pour l'instant, sur le terrain, on a une armée russe qui parvient encore à grignoter un certain nombre de positions, qui prend des villages, qui a fait quelques avancées, mais des avancées extrêmement limitées, au prix de pertes colossales du côté de l'armée russe. Donc, ces avancées sont réelles, mais elles sont quand même assez faibles. On voit surtout l'Ukraine agressée, terrorisée de plus en plus par des frappes russes sur ses populations civiles. On l'a vu la semaine dernière avec notamment l'attaque contre trois hôpitaux, dont l'hôpital pédiatrique d'Armartit à Kiev, parce que tout simplement les Alliés, et c'est leur faute, leur culpabilité même, n'ont pas fourni suffisamment de défense antimissiles à l'Ukraine, en tout cas pas suffisamment tôt. Donc on peut penser qu'avec les nouvelles livraisons qui ont été annoncées par les Alliés, L'Ukraine pourra mieux d'abord se protéger, et c'est évidemment fondamental, parce que voir aussi qu'au-delà de ces attaques contre les civils, vous avez 80% des infrastructures énergétiques qui ont été détruites, et pourra probablement mieux stabiliser en quelque sorte le front, empêchant la Russie de commettre de nouvelles offensives. En revanche, et moi c'est la préoccupation principale que j'ai entendue en Ukraine les deux dernières fois où j'y suis allé en mars et en juin, c'est que toutes ces armes nouvelles vont permettre à l'Ukraine donc de mieux tenir, au moins pendant encore 6 mois ou 9 mois, après on n'en sait rien, mais ne permettront pas à l'Ukraine de reconquérir les territoires perdus. Et ça, c'est un vrai, vrai, vrai sujet, une vraie inquiétude. Je trouve que les Occidentaux en général, les États-Unis, mais aussi les Européens, restent encore vraiment à mi-chemin, de manière très coupable, dans leur aide à l'Ukraine. Il faudrait vraiment aujourd'hui mettre le paquet, lever aussi toutes les restrictions qui sont imposées à Kiev aujourd'hui. Par exemple, les États-Unis disent que les missiles américains n'ont pas le droit de frapper l'ensemble du territoire russe, dont certains, évidemment, d'où partent les avions qui décollent pour bombarder l'Ukraine ou les missiles, etc. Et je pense que vraiment, il faut lever ces restrictions et aller vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Il y a vraiment urgence parce que on connaît évidemment les incertitudes côté américain avec l'élection du 5 novembre et on peut penser que si Trump est élu à nouveau, eh bien l'ensemble de l'aide américaine en tout cas voilà, s'effilochera ou cessera même totalement et les Européens ne sont pas de leur côté passés suffisamment en économie de guerre, même pas du tout à vrai dire, et il faudrait qu'ils remplacent les États-Unis à leur défaillant, et ils ne sont pas aujourd'hui en mesure de le faire.
Et nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochains mois sur Radio Judaïka. Nicolas Tenzer, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions géostratégiques. On rappelle également votre dernier ouvrage, Notre guerre, aux éditions L'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. À bientôt.
Merci à vous, à bientôt.